French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Ça n'a jamais été un rêve, tu vois, le rêve américain, non. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, pas du tout. Et puis, du jour au lendemain, en fait, l'entreprise nous a mis un gros stop. Là, ce que vous voyez là, c'est le pire. Donc, si vous êtes toujours tenté, c'est bon, ça se passera bien. Ah oui, là, ça va être quand même la campagne. Le départ aux États-Unis avec la barrière de la langue, c'était ma crainte, c'était pour les enfants.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston aux États-Unis. Aujourd'hui, je vous amène dans l'un des plus canadiens des États américains puisqu'il s'invagine littéralement dans ce pays si froid. J'ai nommé le Wisconsin. Il y a un peu plus de 4 ans, notre invitée, alors maman de 2 jeunes enfants, dont une de 16 mois, n'avait absolument aucune envie de s'expatrier hors de sa Marne natale dans l'est de la France. Puis suite à une proposition et un faux départ, l'expatriation s'impose finalement à elle comme une évidence. Arrivée avec sa famille aux États-Unis sous un visa relativement précaire, le J1, mon invitée nous parle aujourd'hui du défi qu'elle s'est fixé, à savoir de s'approprier elle aussi son expatriation, d'être femme d'expat aux US et maman à 100%. Nous discutons aussi de l'importance et du soutien de la communauté en ligne lorsque l'on est loin de chez soi et de la résilience des enfants. J'ai le plaisir de vous présenter Fanny. Les plus connectés d'entre vous la connaissent sans doute sous le nom de Fanny French Family sur Instagram. C'est d'ailleurs là qu'elle partage avec générosité son quotidien de maman à temps plein de 3 petites filles et d'expat voyageuse curieuse. Je ne sais plus trop comment j'ai découvert Fanny pour être tout à fait honnête, mais une chose est sûre, en tant qu'expat aux États-Unis, Fanny est un petit peu notre célébrité locale et nous sommes très heureuses de la retrouver aujourd'hui pour raconter l'histoire de son expatriation. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse d'accueillir Fanny sur le podcast. Bonjour Fanny, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne-Fleur.
Alors tu nous parles d'où ce soir ?
Du Wisconsin.
Du Wisconsin, mais alors c'est où ça ? On est aux États-Unis ? On est au nord, c'est à peu près tout ce
alors,
que je sais.
On est au nord, au centre même des États-Unis, et on est dans la région des Grands Lacs, juste en bas du Canada.
D'accord. Donc là, comme on est en plein hiver, il fait un petit peu froid
oui,
par
voilà,
chez toi.
Là ça commence, il fait un petit moins 12 aujourd'hui, donc ça va.
Ah, elle est sympa, ouais, sympa.
Pas encore, ça va.
Ok, alors, donc, tu nous parles donc de cette région-là des États-Unis. Tu viens donc de France, comme quasiment tout le monde sur le podcast. Tu viens de quel coin ?
Je viens du nord-est de la France, de, on va dire, Langres, mais c'est pas tellement.
D'accord.
De la Haute-Marne.
Ok,
bien
ça
sûr,
marche.
Ça parle pas trop,
ok,
non,
mais j'avoue que oui, je vais pas faire trop la fière. J'avoue que je suis pas très très douée en géographie de ce coin-là.
Non,
de la France. Je fais pas trop la fière.
Tu n'es pas la seule. Il y a pas grand-chose, hein, là-bas.
D'accord. Et donc, tu es originaire de là. C'est là que c'est dans cette région-là que tu étais avant de t'expatrier aux États-Unis?
On était tous les deux de Haute-Marne. On a vécu un petit peu près de Nancy. Et juste avant notre départ, on était près de Nancy.
Ah, Nancy, je sais.
Voilà, c'est un peu okay. plus connu.
Bon, et alors donc, si on retourne un petit peu en arrière, avant de parler de ton expatriation, de pourquoi et depuis quand tu es là, à quoi ressemble ta vie, du coup, à côté de Nancy? À quoi ressemblait ta famille aussi?
Eh bien, on habitait donc un petit village à côté de Nancy. On avait quitté notre Haute-Marne natale pour le travail de mon mari. Il avait accepté un poste en Moselle. Et donc, on avait fait le choix de déménager en Meurthe-et-Moselle, dans ces coins-là. Et puis moi, j'étais en congé maternité et je m'occupais donc de ma petite dernière qui, à l'époque, avait 16 mois, juste avant notre départ. Et donc, deux filles déjà à l'époque.
Tout micro bébé. Et alors, en faisant un petit peu de recherche, en cherchant un petit peu, Fanny, ce que tu faisais avant, le livre que tu as écrit, ça date de avant ou après l'expatriation?
Non, ça date de après.
Bon, et alors, en deux mots, c'est un livre sur le fait d'être maman et de pas se prendre la tête.
Voilà, c'est ça. Quand j'ai eu ma deuxième petite fille, j'avais un blog à l'époque qui s'appelait Maman presque imparfaite et je racontais sous forme de chronique la maternité de façon assez humoristique, on va dire.
Et complexe.
Voilà, complètement. Ouais. Et puis, quand on est parti ici aux États-Unis, j'ai été contactée pour en faire un livre sous forme de chronique également. Donc voilà, il est paru une fois que j'étais sur le sol américain.
Génial, super, super. Bon, alors, du coup, alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés aux États-Unis? Est-ce que tu connaissais d'ailleurs les États-Unis avant de partir?
Non, nous, on n'a jamais eu les États-Unis en tête comme beaucoup de gens qui en rêvent. Ça n'a jamais été un rêve, tu vois, le rêve américain. Non, c'était pas quelque chose qui nous fascinait forcément, mais oui, c'est un pays qui nous attirait plus pour des vacances, quoi. Mais jamais on se serait imaginé aller y vivre. Ni ailleurs d'ailleurs.
Et encore moins au fin fond du Wisconsin. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est vrai qu'on n'a pas un profil des plus courants. On n'est pas envoyé par l'entreprise. Donc voilà, on n'est pas dans cette démarche-là. En 2015, je venais d'avoir notre deuxième fille et mon mari, donc on venait de déménager près de Nancy, venait d'accepter un nouveau poste. Donc il travaille dans le domaine du fromage.
On peut pas faire beaucoup plus français.
Voilà, c'est clair. Et donc à l'époque, il rentre un soir et il me dit, écoute, j'ai une offre d'emploi pour les États-Unis en Californie. Donc voilà, tu vois, Wisconsin, Californie, on n'y est pas, mais à l'époque c'était ça. Et si tu veux, donc moi j'étais catégorique et c'était non au départ parce que j'imaginais absolument pas aller vivre à l'étranger. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé. On venait d'avoir notre deuxième fille, on avait des filles qui étaient petites, puis forcément les États-Unis, ça voulait dire aussi barrière de la langue, enfin voilà, plein de choses qui se mettaient en place. Lui, je voyais bien que ça le tentait, mais moi, pas du tout. Et puis à force d'y réfléchir, d'en parler, on a fini par se dire, écoute, pourquoi pas. Donc finalement, j'ai commencé à faire le cheminement de oui, il faut peut-être y réfléchir, peut-être que c'est l'occasion, peut-être que ça peut être une bonne expérience pour nous, même si c'était pas forcément quelque chose sur du long terme. Et puis on a lancé les démarches. Il est venu, donc c'était une offre au nord de San Francisco. Il y est allé en visite pour l'entreprise. Il a fait plusieurs entretiens. Donc c'était vraiment lancé en fait. Hein. On commençait à parler mariage.
À vous profiter.
Ouais, voilà, un mariage pour les visas. On allait vraiment aller assez vite. Et donc on s'est mariés. Hein. Bon, c'est une bonne chose. Et effectivement, peut-être que dans un autre contexte, on l'aurait pas fait à ce moment-là. Donc, on a tout fait un petit peu vite. Et puis, du jour au lendemain, en fait, l'entreprise nous a mis un gros stop. En nous disant...
Non, qu'est-ce qui s'est passé?
En nous disant que finalement, ils avaient réfléchi et qu'ils préféraient privilégier un profil de quelqu'un de célibataire. Ils avaient peur, en fait, d'envoyer une famille là-bas avec des jeunes enfants et tout ce que ça implique. Ils avaient peur en fait que au bout de quelques temps ça ne nous convienne pas en fin de compte et puis qu'on fasse le choix de rentrer en France.
Ça doit être vachement dur, du coup, vous vous projetiez, vous y étiez un peu dans votre tête, non?
Mais complètement, parce qu'au final, même si au départ j'étais réticente, après, quand, une fois que t'es vraiment dans le cheminement et dans le projet, que tu commences à vendre des affaires, que tu te maries, que tu projettes toute ta vie là-bas, sachant qu'on était en plein mois d'août, fin août, juste avant la rentrée scolaire, moi j'avais pas inscrite mon aîné à l'école puisque je pensais qu'on allait partir. Enfin, il y avait plein de choses une énorme déception, une claque quoi. On s'est pris une grosse claque et puis ben voilà, on s'est dit écoute, maintenant qu'on a eu ça en tête, maintenant qu'on était prêt vraiment à sauter le pas et à tenter quelque chose à l'étranger, eh bien on va tout faire et on va essayer, en tout cas on se donne 1 ou 2 ans maxi parce qu'on estimait que c'était le bon moment au niveau de l'âge des filles, de nos âges aussi et puis de la carrière de mon mari surtout. On s'est dit que c'était le moment d'essayer de faire en sorte de trouver un job pour partir et puis tenter l'aventure à l'étranger.
D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est un peu une question qu'on nous pose souvent. Moi aussi, j'aimerais bien venir aux États-Unis. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent, et du coup, j'imagine que tu vas peut-être me prouver que j'ai tort, mais c'est pas facile de venir quand ta boîte te sponsorise pas. C'est pas facile, en fait. Je retiens ce que j'ai dit, de trouver du travail sans avoir toute l'immigration qui a été faite, quoi, tout le visa, etc.
Complètement.
Comment est-ce que vous y êtes pris?
Eh ben écoute, on me pose la question quasiment toutes les semaines sur Instagram. moi aussi, j'ai envie d'aller vivre aux États-Unis et c'est pour ça que je suis pas trop légitime dans le sens où je peux pas trop dire c'est vrai que c'est compliqué. Oui, c'est extrêmement compliqué les États-Unis, on va pas se cacher. Si tu viens pas en tant qu'investisseur ou de par une entreprise, c'est quand même assez compliqué. Donc on s'est dit, on va essayer d'y aller un peu au culot en fait, d'envoyer des candidatures spontanées dans le domaine d'activité de mon mari, donc dans des entreprises
qui restent très spécifiques.
Voilà, qui est quand même très spécifique, on est d'accord. Donc ça pouvait être un point positif pour nous.
Donc, c'est clair, ouais.
Mon mari m'a dit, écoute, vas-y, tu fais, je te laisse faire. Donc j'étais un...
Ah, tranquille. Donc, c'est toi qui as fait toutes les candidatures.
C'est ça, le fait. C'est que c'est moi, en fait.
Bien joué, mec.
Voilà. Ah, merci. Hein. On me dit merci. Non, je rigole. Mais vraiment, donc, en fait, on avait préparé tout. Moi, je contactais les entreprises. Donc, j'avais ciblé toutes les usines où ils faisaient du fromage aux États-Unis. Bien évidemment, au départ, j'avais quand même ciblé des usines en Californie, tu vois, je voyais un peu le soleil.
Petite région sympa, quoi, ouais, t'as raison.
Voilà, évidemment. Et puis, à force d'envoyer des candidatures, il y a une entreprise qui, miracle, nous répond que le profil donc d'Aurélien, de mon mari, les intéresse, ça tombe bien parce qu'il recherche une personne pour le poste qu'occupait mon mari en France. Donc vraiment vraiment gros coup de chance.
Le bingo quoi, ouais.
Vraiment bingo. Mais la chance qu'on a eue, c'est que c'était une entreprise américaine mais qui avait été créée par 2 Français il y a plus de 25 ans et donc en fait les directeurs étaient français. Donc c'était beaucoup plus facile mais sans le savoir en fait, voilà, il recherchait à ce moment-là et nous, on envoie cette candidature qui leur tombe un peu du ciel et ils se disent « super, parce qu'on recherche justement ce profil et on trouve pas ce profil-là chez les Américains ».
Et alors, il s'est passé combien de temps donc entre le stop que tu as eu donc fin août et la réponse de cette nouvelle entreprise?
Eh ben le stop c'était fin août en 2015 et les candidatures donc j'ai commencé dès septembre on va dire et début février 2016, on a
dans
cette entreprise qui nous disait écoutez nous ça nous intéresse. Donc il a fait Skype plusieurs petits entretiens. Mm-hmm. Et ensuite, se poser la question de venir, parce que c'était dans le Wisconsin.
Et en plein hiver, du coup.
Et en plein hiver. C'est ce qu'ils nous ont dit quand on est arrivé. Venez. En plus, on est au mois de février. On est venu. C'était un 24 février. Il faisait très froid. Il neigeait.
Au moins, tu sais que ça peut pas être pire que ce que tu vas voir.
Exactement. Là, elle m'a dit à l'époque, écoute, là, ce que vous voyez là, c'est le pire. Donc, si vous êtes toujours tenté, c'est bon, ça se passera bien. Donc, on y est allé un 24 février. Donc, Aurélien et moi, on avait laissé les filles en France. On a vraiment fait l'aller-retour sur 3-4 jours. Et puis, ben, on a atterri ici, dans le Wisconsin. Et voilà.
Génial. Et alors, la vie dans le Wisconsin, parce que on passe tous par un minimum de choc culturel quand même, même si on essaye de se préparer en arrivant dans un nouveau pays. Le Wisconsin, donc aux États-Unis, ça reste en plus un État qui est un petit peu plus retiré. J'irais pas jusqu'à dire que tu habites à la campagne, mais un petit peu.
Tu peux le dire, c'est vrai. Voilà.
Si je peux le dire.
Ah oui, oui, tu peux le dire.
Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée l'arrivée, qu'est-ce que tu as découvert, à quoi tu t'attendais et puis comment ça s'est vraiment passé finalement?
Ben écoute, dès qu'on est venu déjà en visite, premier choc en gros, c'était les routes, parce que tu sors de Chicago, t'atterris à Chicago dans l'Illinois, c'est quand même les grandes routes, voilà, c'est déjà impressionnant, les 5 voies, je ne sais combien là. Et plus tu t'enfonces dans les routes du Wisconsin, plus tu te dis, ah oui, là, ça va être quand même la campagne, on va être bien perdu. C'était vraiment...
Pourquoi ?
C'était même plus des routes. Au bout d'un moment, c'était des chemins. Enfin, c'était quelque chose de assez... voilà, c'est typique, on va dire. Et premier stop, pas très loin de où on habite maintenant, une calèche qui passe avec des Amish. Donc,
ah oui.
Là, c'est le choc, tu vois, gros choc.
On connaît pas trop ça en France. Si tu peux décrire du coup, pour les auditeurs qui connaîtraient pas.
C'est vraiment l'image qu'on peut avoir de un peu comme dès que je monte sur Instagram, on me dit c'est la petite maison dans la prairie, mais c'est un peu ça. C'est l'ancienne calèche avec les tenues vestimentaires particulières. Voilà, ils vivent dans des fermes. Il y a énormément de communautés Amish par chez moi, autour de ma ville. Ils vivent dans des fermes sans électricité, sans tout ce qui est moderne, hein, en fin de compte. Voilà, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien. Ils travaillent dans les champs. Ils travaillent beaucoup aussi pour les usines comme celle de mon mari. Ils sont producteurs de lait, bien souvent. Mais c'est vraiment... c'est dur, quoi. Des fois, tu les vois l'hiver dehors, quand il fait moins 30 en calèche. C'est chaud. Hein.
Et à l'inverse, tu les vois, parce que les étés continentaux aux États-Unis sont très, 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 très chauds. Et tu vois qu'il fait 40 degrés, et les femmes sont avec des gros collants en laine, des robes qui découvrent de la tête aux pieds.
Exactement, si tu les vois travailler dans les champs sous 30 degrés.
C'est une communauté, du coup, qu'on retrouve aux États-Unis, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est surtout localisée en Pennsylvanie.
Oui.
Mais qu'on retrouve un petit peu partout.
Il y en a un petit peu aussi, par chez moi, dans le Midwest. Non, mais c'est vrai que, bien souvent, c'est plus en Pennsylvanie, la communauté est plus présente là-bas.
D'accord.
Voilà, ça fait partie du premier choc en arrivant sur la route, tu vois. Et après, quand on s'est installé, ici, c'était les premières choses, c'était les magasins, c'était les grosses quantités, les galons de lait, les pots de glace gigantesques. Enfin, c'était vraiment tout ce genre de choses auxquelles on fait plus du tout attention maintenant. Plein de petites choses, les colis qu'on peut laisser devant les portes, tu vois, ça au départ, ça m'a étonné, quoi. Je me suis dit, pourquoi le matelas que j'ai commandé pour le bébé est devant ma porte? Et personne ne me l'a volé, c'était plus ça. Voilà, la confiance, en gros, que les Américains ont. Et les vendeurs de fruits et légumes sur le bord de la route, avec les prix d'affichés, il n'y a personne, il y a les prix d'affichés, il y a la petite caisse pour mettre l'argent. Ben, la caisse, elle reste là, elle n'est pas volée. Respectent. Enfin, voilà. Bon, après.
Je me souviens de la première fois où je suis partie en vacances aux États-Unis. Enfin, j'habitais aux États-Unis, j'étais étudiante. Et on allait camper et on n'avait pas de feu de bois. Et au bord de la route, pareil, quoi, un peu comme tu dis, on trouve des cartons avec suffisamment en gros de bois pour allumer un feu. Et c'était, si vous en prenez, merci de mettre $5 dans le
feu. C'est ça. Bon.
Et c'est vrai qu'en tant que Français, j'adore mon pays, mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire, c'est cool, j'en prends deux, je lui mets juste $5.
Exactement.
Moi, en tant qu'étudiante, j'y ai pensé.
Le nombre de fois où tu vois le colis de ta voisine qui est énorme et tu regardes, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a commandé. En France, c'est triste, mais
ça disparaît.
C'est pas une critique, mais c'est
non, bien sûr.
Mais c'est ça. Ouais. Et puis la liberté qu'ils ont aussi, tu vois, d'afficher leurs opinions. En période d'élection, quand il y a eu les élections pour les présidentielles avec Trump, il y avait les panneaux dans les jardins, tu vois, où les gens affichent pour qu'ils votent ici. Et ça m'a aussi étonnée. Donc j'avais du Hillary d'un côté de chez moi et de l'autre côté j'avais Trump. C'est marrant, quoi. Les voisins votent pas la même chose, mais bon, ça respecte, tu vois, ils ont leurs panneaux dans leur jardin, c'est assez typique aussi.
Alors donc du coup, vous arrivez tous les quatre, elles ont quel âge tes filles au moment de votre arrivée? Donc la dernière a 16 mois, enfin la dernière à l'époque en tout cas, et l'aînée avait quel âge?
Elle avait 4 ans.
D'accord, et alors à 16 mois, je suis pas sûre que tu puisses vraiment la préparer au déménagement aussi?
Non, du tout, elle s'est rendue compte
de rien. Elle doit pas se souvenir vraiment de sa vie en France?
Non, elle se rappelle de rien. Vraiment.
Et alors, ton aînée, donc, elle parle, elle allait en maternelle déjà, ou comment est-ce que tu as préparé son arrivée, puis comment c'est passé du coup son arrivée?
Donc, elle parlait pas du tout anglais, forcément. Elle avait fait une année et demie de maternelle en France, et puis donc on est parti en mai. Donc, on est arrivé le 13 mai ici aux États-Unis. Donc, elle n'a pas repris l'école tout de suite. De toute façon, elle n'avait que 4 ans, donc elle ne pouvait pas rentrer encore.
Et puis, ici, ce n'est pas obligatoire.
Non, puis c'est plus 5 ans l'âge ici aux États-Unis. Donc, ça nous a laissé plusieurs mois jusqu'à la rentrée de septembre, pour qu'elle se prépare un petit peu à la langue. Donc, voilà, on n'a pas voulu trop essayer de lui apprendre l'anglais avant qu'elle soit complètement imprégnée à l'école. On voulait vraiment qu'elle apprenne à l'école, tout simplement, que pour l'accent aussi, parce que nous, on parlait pas super bien anglais, toujours pas non plus, mais notre accent est pas terrible non plus. Donc voilà, on voulait vraiment qu'elle apprenne tout à l'école. Donc après, on lui a expliqué, elle avait pu visiter l'école, parce que c'était assez, c'est quand même assez bien fait. On va dire qu'ils ont quand même l'habitude des étrangers aux États-Unis, et que tout est fait pour que tes enfants soient plutôt bien pris en charge et bien accueillis. Donc voilà, ça s'est fait sans trop d'appréhension. Et elle a vraiment, elle a apprécié tout de suite l'école. Donc c'était quand même ma crainte. Hein. Le départ aux États-Unis avec la barrière de la langue, c'était ma crainte. C'était pour les enfants. Quoi. J'avais vraiment peur qu'elle s'y fasse pas, que l'anglais ça soit trop compliqué. Et puis en fin de compte, c'est souvent eux qui s'adaptent le mieux et le plus vite. Hein.
Et alors, comment est-ce que ta vie de famille a évolué aux États-Unis? Est-ce que il y a des choses que tu fais différemment? Est-ce qu'il y a des traditions que tu as choisi justement d'incorporer à ta vie de famille maintenant, ou inversement des choses que tu refuses d'intégrer à ton quotidien?
Eh bien, on essaye de garder un petit côté français quand même, tu vois. À la maison, on garde le français.
Le fromage.
On garde le fromage aussi quand on en trouve du bon. Tu sais que le Wisconsin, c'est quand même l'état du fromage aussi. Hein,
mais il faut que j'y aille faire un tour.
Non, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Tu ne retrouveras jamais la qualité du fromage français. C'est pas possible. Mais niveau tradition, on essaye de quand même s'intégrer au maximum. Hein, aux États-Unis, donc on fête Thanksgiving, on essaye d'incorporer les fêtes. Après, on apprécie franchement les fêtes américaines. Halloween ici, c'est quelque chose. Enfin, ça commence avec Halloween, la fin d'année, c'est plutôt chouette. Thanksgiving,
festif.
Ouais, c'est très festif. Pumpkin patch, on adore. Ça, c'est vraiment une tradition qu'on a mis en place dans notre famille. Aller à la ferme chercher sa citrouille, faire plein d'activités autour de ça. Enfin, franchement, c'est vraiment super sympa pour les familles. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis, ouais, on garde quand même notre petit côté français plus pour, tu vois, j'essaie de maintenir les horaires un peu français pour les repas.
Dînes pas à 17h30.
Non, je ne dîne pas à 17h30. D'ailleurs, je me suis toujours dit, mais comment ils font pour manger en famille à 17h30? Mon mari n'est jamais quitte à 17h30. Donc, c'était une des premières questions. Mais c'est vrai qu'ils dînent quand même très tôt ici. Mais ça, on essaye de garder le petit côté français quand même.
D'accord. Et alors, on a parlé donc de tes deux filles. On peut dire leur prénom ou pas?
Oui, tu peux, oui.
D'accord. C'est Lina et Zélie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, on a parlé donc de Lina et Zélie qui sont arrivées aux États-Unis. Et ta famille s'est agrandie récemment?
Oui, récemment. Il y a 4 mois, oui. Oui, j'ai eu une troisième fille. Hein, ouais. On fait
félicitations.
Oui, merci. Donc oui, j'ai vécu une grossesse aux États-Unis, voilà. J'avais vécu 2 grossesses en France, ça faisait une expérience de plus. Une grossesse aux États-Unis. Donc une nouvelle fille, oui, Nora, qui est née il y a 4 mois, qui est américaine pour le coup.
Génial, mais écoute, c'est super. Et alors, raconte-nous un petit peu, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences de la grossesse entre les États-Unis et la France? Est-ce que tu as observé des différences d'ailleurs, ou est-ce que finalement c'est tout pareil?
Alors, je dirais que le suivi est quand même assez semblable. Bon, après, ça dépend évidemment de voilà, d'où tu te fais suivre ici aux États-Unis, et puis pareil en France, hein, des fois d'un gynécologue ou d'un centre à un autre, ça change. Mais c'est relativement similaire au niveau des visites, tout ça. Après, il y a quand même des petites différences. Ben, déjà, il y a moins d'examens physiques, on va dire, aux États-Unis. Tu vois, ils ont un côté quand même très, très... comment dire, préserver ta vie privée, ta vie intime, donc ils font très très attention.
C'est vrai. Ouais,
très très. En France, c'était pas du tout comme ça. Hein. Le coût, hein, de la grossesse, forcément. Le coût d'une grossesse et d'un accouchement aux États-Unis, c'est différent de la France, hein, puisqu'en France,
tu as dû payer de ton accouchement.
Non, moi j'avais une très bonne assurance santé, heureusement, et ça, mm-hmm. ça nous a ouais. coûté 1 800 $.
Ah, quand même. Ah, ouais. Oh, moi, j'ai pas payé un rond.
Ah, okay. Tu as rien payé du tout.
Ah, ouais, d'accord. Non, j'ai rien payé.
Eh ben, moi, c'était 1 800 $, et au-delà de ça, on était remboursé, en fait.
Mais d'accord.
C'est vrai que ça okay. peut chiffrer très vite, hein. Des grosses 30 000 $, c'est pas un mythe, hein. C'est la réalité. Mais, effectivement, quand on est en France, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Sinon, je dirais que, c'est plus au niveau des soins du bébé, c'était différent. L'accouchement, c'était différent aussi. Après l'accouchement, moi j'ai accouché dans un hôpital ici, c'était limite un hôtel. Hein. Ça n'a rien à voir.
C'est clair.
Français, quoi. Tu te dirais même, j'aimerais bien rester une ou deux nuits de plus.
Non, mais moi, le room service, ça m'a
choqué. Ah ouais, moi aussi, le room service à l'hôpital.
Il y a un menu.
Exactement.
Où tu peux choisir. Je me souviens, moi, j'ai accouché le jour de Noël, du coup, je rêvais, c'était un carrot cake. Donc, je commandais mon carrot cake dans ma chambre. Mais c'est complètement dingue que tu puisses me manger un hamburger après l'accouchement.
Quand je suis rentrée dans la chambre et que j'ai vu sur la petite table le dépliant marqué menu, je dis à Aurélien, ne me dis pas que je peux commander ce que je veux à manger quand même. Eh mais si, les boissons, tout. Ah ouais, quand même. Bon, effectivement, après, tu le payes, tout ça. Donc, voilà, c'est aussi... c'est un choc par notre science, ouais. Mais c'est vrai que c'est différent, quoi. Donc, ouais, plein de petites choses. Pas de rendez-vous d'anesthésiste pour la péridurale, ça n'existe pas ici. Après l'accouchement, on n'a pas de rééducation du périnée pour les femmes. Voilà, c'est plein de petites choses. Et puis surtout, toujours, je sais pas toi, mais moi, une question qui est revenue tout le long de ma grossesse, à chaque fois que j'avais rendez-vous avec ma gynéco ou autre, j'avais toujours la question « Are you safe at home ?» À chaque fois, cette question est revenue, ça m'a étonnée en fait. Tout le long, c'était ça, on me demandait si tout se passe bien.
Tu te sentais en sécurité,
oui, il fallait... tout le temps, moi c'est tout le temps, même chez le médecin, il vérifie toujours ça et ça me fait... Bon, après, il me demande ça, mon mari à côté. Donc, bon, je suis pas vraiment en sécurité, je suis pas sûre que je pourrais dire ouvertement, mais bon. Mais c'était le genre de questions un peu bizarres. On avait le droit à un traducteur aussi pour l'accouchement. Ça m'avait étonné que même un traducteur français puisse être dispo pour l'accouchement si besoin.
Ouais, c'est dingue. Ah ouais, on m'a pas proposé, mais c'est vrai qu'avant l'accouchement, on te fait remplir tes papiers, faits d'admission, genre quelques semaines avant. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça, et on m'avait demandé quelle était la langue dans laquelle je voulais qu'on me parle. Donc, effectivement, peut-être qu'on aurait.
Ah oui, je pense que ça aurait pu être.
Excellent. Et alors, bon, je t'inquiète pas, je sais que ta fille a 4 mois, je ne te parle pas de faire un 4e enfant, mais j'allais dire si c'était à refaire aux États-Unis ou en France, mais bon, mais même, enfin, est-ce que du coup, je sais pas, t'as eu une préférence sur la manière dont t'as été prise en charge entre les deux pays, ou finalement, ça, je veux dire, tes filles sont tellement fantastiques que tu t'en fiches, quoi.
Non, mes filles sont fantastiques, mais j'ai préféré vivre ma grossesse ici, vraiment.
Ah ouais.
J'ai trouvé que l'accompagnement, en fait, on te considère un peu plus comme un individu ici, tu vois. Ça faisait moins numéro, ça faisait moins à la chaîne, un peu comme en France. Alors attention, hein, c'est pas une critique, hein, mais par exemple, moi, ma première grossesse, c'était quand même un suivi assez limite, quoi. Hein, pas trop. pas trop d'échanges, pas trop de tout ça. Alors même si ici, des fois, c'est peut-être beaucoup trop, on a toujours tendance à dire que les Américains en font trop, même dans leur façon de saluer ou de te dire comment ça va et tout ça. On a souvent tendance à entendre ça, mais d'un côté, bah, on s'en fiche. C'est toujours bon à prendre, tu vois, ce trop, ce positif en fait qu'ils ont. Et moi, j'ai trouvé que ouais, le suivi était plus sympathique aux États-Unis, on va dire.
Alors, on revient donc un petit peu sur votre arrivée. Donc, tu disais que vous évitiez, par exemple, de parler trop anglais à ton aînée en attendant qu'elle commence l'école aux États-Unis, parce que tu voulais pas l'induire en erreur avec votre accent, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, et justement, j'ai ouï dire que vous avez une petite anecdote, t'aurais une petite anecdote à me partager d'un McDonald's, au McDrive.
Non, quand on est arrivé, la barrière de la langue, c'était quelque chose, tu vois. Mon mari, il avait un niveau, on va dire, scolaire, mais je dirais scolaire plus, tu vois, où il s'en sortait un peu plus que moi. Mais moi, l'anglais, c'était vraiment scolaire moins. Hein.
Moi aussi.
Scolaire de j'ai rien fait à l'école et j'ai pas suivi les cours d'anglais et je le regrette d'ailleurs. Mais vraiment une catastrophe, mais même niveau compréhension. Et puis l'accent américain, c'est quand même spécial, c'est quand même voilà, hein, un américain qui te parle anglais, c'est bien prononcé.
Pas de pause, ça va très vite, on articule peu.
Ouais, voilà. Et puis dans le Wisconsin, je pense aussi qu'il y a un accent encore plus prononcé, enfin plus particulier. Ouais. C'est quand même quelque chose. Donc finalement, je ne comprenais rien. Quand je te dis rien, j'étais incapable de suivre une conversation, incapable de comprendre quoi que ce soit. Les débuts ont été quand même très difficiles.
Mais moralement, ça n'a pas dû être facile.
Ouais, c'était pas évident, de se dire, en plus, débrouille-toi puisque ton mari est au travail, mm-hmm. il a d'autres choses à faire. Et puis, moi, il fallait que je me bouge un petit peu quand même, quoi, et que je sorte. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que ça aide ou ça aide pas, mais les Américains sont quand même très, bavards et souvent, même dans les magasins, la caissière.
C'est vrai.
Quand tu vas, la caissière va te poser des questions ou te dire si t'as passé une bonne journée ou une bonne soirée. Enfin, tu vois, les gens sont avenants ici. Ils cherchent.
Ouais, tu sais pas comment répondre.
Donc, quand tu comprends pas et que tu ne sais pas quoi répondre, tu vois, moi, le I'm so French, j'ai dû le sortir 10 000 fois au début. Hein, parce que... mais ouais, donc les premières commandes des fast-foods, c'était quelque chose. Moi, j'avais demandé... des sauces pour mes frites, ils m'ont tout mis dans mon burger. Enfin, donc je me suis retrouvée avec un burger qui existe dans le McDo dedans, tu vois, par-dessus la viande. Et des magasins Ikea en me disant Ikea, mais si, tu vois, en anglais, on parlait magasin, mais si, un magasin de meubles Ikea. Je comprenais pas, je disais, c'est quoi ce magasin Ikea? On n'a pas de Ikea. Voilà, tu vois, c'était vraiment c'était compliqué et puis la culture quoi qui est différente. Moi je me souviens de notre arrivée ici, mon mari qui a voulu faire la bise à une américaine, je t'imagine bien la réaction de cette américaine qui a rebondi qui a cru que voilà quoi qu'il allait lui sauter dessus alors que pas du tout, et lui faire la bise. C'était un choc.
Ouais. Et c'est surprenant d'ailleurs parce que les Américains, moi je sais que c'est quelque chose qui me mettait très mal à l'aise au début. Ils vont te prendre facilement dans les bras pour te faire un câlin. Et moi je trouve ça vachement plus invasif. C'est mon espace vital quoi. J'avais du mal. Bon maintenant ça va mieux. Et alors que nous, bon, on fait une petite bise et finalement on fait des bises où on met à peine nos lèvres sur la joue des gens quoi.
Exactement.
Et ça les fait mais tailler.
Ah oui. Alors. Mais moi je suis comme toi, tu vois. Autant je trouve que la bise ça va. Enfin, mais alors le câlin à l'américaine, moi j'avais beaucoup de mal aussi. Et puis de ne pas savoir à partir de quel moment t'es assez intime avec une personne pour lui faire un câlin, quoi. C'est quand même spécial aussi ça. Mais bon.
Oui, c'est ça. Mais je sais quoi, on me faisait un câlin. Du coup, j'étais, mais tu sais, le cliché quoi. J'étais la nana, je restais les bras ballants. Je savais pas quoi faire.
Oui, moi aussi. Tu sais pas comment faire de ces bras. Dans ces cas-là, franchement, c'est pas naturel pour moi. Vraiment pas.
Exactement.
Non, moi, je fais pas des câlins à un genre que je connais pas. Je fais des câlins à ma famille, c'est tout.
Oui, c'est ça, exactement. Même à mes potes, a priori, je les câline pas tous les jours. Enfin, bref. Ok. Alors du coup, donc pour continuer donc sur cette barrière de la langue, comment est-ce que t'as fait pour t'améliorer, parce que ça devait pas être complètement facile au début. Est-ce que t'as suivi des cours? Est-ce que en fait finalement c'est en vivant là-bas, on apprend par la force des choses? Tu peux nous raconter?
Non, c'était vraiment en vivant là-bas. Voilà, je me suis forcée un petit peu à sortir, à aller à la bibliothèque avec mes enfants, à aller dans ce qu'on appelle les story time à la bibliothèque, les rencontres maman et enfant autour d'un café. Enfin voilà, je me suis forcée un petit peu. Par chance, j'ai fait la connaissance aussi de deux Américaines, mais qui parlaient un français, un super français, d'une Américaine qui avait vécu en France, qui m'a beaucoup aidée, et puis d'une autre qui est professeure de français ici mais qui est américaine, et pareil, qui m'a vraiment aidée aussi, ne serait-ce que pour l'administratif, toutes ces choses. Et puis à force de sortir, de se faire un peu violence, on va dire, ça va, on s'y fait. En compréhension, j'ai bien évolué là-dessus. Bon, j'ai toujours plus de mal niveau vocabulaire, parce que forcément
c'est toujours plus difficile de parler que de comprendre, c'est normal.
C'est vrai que c'est frustrant au bout d'un moment, parce que tu vois que ton mari, il évolue hyper vite, qu'il parle un anglais parfait, que tes filles qui rentrent à l'école évoluent très vite aussi, qu'elles ont un accent que toi, tu n'auras jamais. Mais ça, c'est bon, c'est génial pour elles. Mais toi, en fin de compte, tu restes quand même à un stade où tu progresses niveau compréhension, mais tu as l'impression que qui arrive à un moment où tu progresses plus, quoi, ou que tu comprends, tu suis une conversation, mais par moment, t'as toujours ce petit problème de vocabulaire qui fait que tu peux pas avoir forcément des super conversations comme t'avais l'habitude d'en avoir en France. Et puis forcément, quand t'es un peu bavarde, c'est un peu frustrant au début.
je comprends. Mais bon, heureusement, il y a Instagram, parce que raconte-nous un petit peu. Donc, tu partages un peu justement tes découvertes d'expatriation et plein d'autres choses. Tu peux nous raconter un petit peu la communauté que tu t'es construite autour de l'expatriation?
Oui, à la base, c'était vraiment de par mon blog. J'avais un compte Instagram, et puis quand on est parti ici, ça a évolué effectivement, où j'ai pris plaisir à partager notre quotidien, les différences culturelles. Et puis il faut dire que les États-Unis, ça fascine quand même beaucoup de personnes en France. Et puis voilà, pas forcément ne partager que le positif, mais essayer de partager un peu ce qu'on vit ici dans un pays qui est pas forcément similaire à celui qu'on connaît en France ou en Europe. Et voilà, c'est un plaisir franchement de partager avec plein de personnes, et puis avec d'autres expatriés, évidemment. On fait pas mal de rencontres sur Instagram, et ça, c'est plutôt chouette. Et quand on est expatrié, ça, en fin de compte, tu te raccroches à ce genre de choses, parce que tu crées des liens avec d'autres expatriés, tu te retrouves dans plein de choses, on vit un peu la même vie, on vit un peu les mêmes galères aussi. Donc forcément, il y a des échanges qui se font, et quand t'as plus ta famille sur place, tu te rends compte que ça devient vraiment des amis, des personnes en qui qui comptent pour toi, parce que en vivant la même chose, forcément on crée des affinités et des liens que on n'aurait pas avec d'autres personnes qui sont restées en France, parce qu'elles vivent pas la même chose, elles ont pas la même vision, elles ont pas non plus la vision des choses, la vision de la vie qui change aussi, comme on peut avoir un regard nouveau sur plein de choses quand on vit à l'étranger. Et c'est vraiment chouette. Je pense qu'Instagram, il y a du négatif, mais il y a beaucoup de positif quand même.
Non, c'est vrai, et c'est vachement vrai ce que tu dis, et c'est d'autant plus impressionnant, je trouve, parce que finalement tu te lis d'amitié avec des gens que t'as finalement jamais rencontrés, quoi.
Exactement.
Et tu sais que mon mari me dit, non, ça peut pas être tes copines, tu les as jamais rencontrées.
Mais mon mari est un peu comme ça aussi. Voilà. Il est pas trop Instagram et tout ça. Je pense vraiment que ça a peut-être aidé aussi dans le fait que je me sente, que je vive bien mon expatriation. Je pense que par moment, quand ça n'allait pas forcément, ou quand j'avais besoin d'extérioriser sur des choses, ça faisait du bien aussi de se dire que je suis pas la seule, il y en a d'autres qui sont passés par là. Et puis en discutant, ça permet aussi de peut-être mieux vivre les choses, hein.
C'est sûr. Et puis c'est vrai que c'est une communauté très solidaire là-dessus. On est quand même très peu dans le jugement, mais c'est top. C'est top, c'est top.
Ouais, c'est cool.
Dis, moi, un truc qu'on me dit souvent, alors mon fils, moi, il n'est pas encore scolarisé du coup, mais c'est que les États-Unis, c'est vraiment le royaume de l'enfant, quoi. Tout est fait autour de l'enfant. Et du coup, je me demandais, par rapport à l'intégration de tes filles, puisque ta deuxième, si je me trompe pas, est rentrée à l'école en septembre aussi, comment ça se passe l'école pour elle? Et puis j'imagine que donc il y a des grandes différences aussi que tu as pu observer avec la France.
Oui, bah alors c'est vraiment le pays pour les enfants, ça c'est clair, mais pour tout, enfin les restaurants, tu vois, moi un point positif ici, je me rappelle en France, même quand tu as des enfants qui se tiennent plutôt bien, on va dire, à table au restaurant, c'est vrai que des fois, ben, un enfant, ça va parler fort, ça va faire un peu de bruit, ça va peut-être déranger. Il y a eu plus d'une fois en France où tu te fais un peu regarder de travers, où tu es mis dans un coin au restaurant parce qu'on sait que tu vas gêner, ou voilà, tu arrives avec une poussette, ça fait un peu la tête. Ici, franchement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est un peu tu te sens libre en fait de faire un peu tout avec tes enfants sans pour autant devoir penser à est-ce que ça va être vraiment adapté à eux ou pas. Je trouve que c'est hyper bien fait, les parcs ici aux États-Unis, les parcs pour enfants dans même dans une petite ville comme la mienne, il y a je sais pas combien de parcs qui sont super bien aménagés, en très bon état, voilà, top.
Et puis on y laisse les tricycles, etc.
Ah bah oui, ça c'est incroyable aussi.
En libre service. Ouais.
Complètement, tu peux. Moi, il y a un parc juste à côté de chez moi où tu peux aller. Ça fait partie de l'école d'ailleurs, mais c'est ouvert. Tu peux y aller quand tu veux. Et dans le bac à sable, il y a tous les jouets pour le sable. Tout reste en place. Enfin voilà.
Waouh.
Ouais, c'est assez assez impressionnant par rapport à ce qu'on peut connaître ailleurs. Mais ouais, et les écoles, ouais, chouette. Moi, je trouve qu'on est quand même, on a une chance, c'est qu'ici, on est quand même bien accueillis au niveau des étrangers. Quand t'as, alors attention, hein, moi je parle de ce que j'ai connu. Peut-être qu'il y a des États aux États-Unis ou dans certaines écoles où ça diffère, mais ici, nous, on a eu cette chance, quoi. C'est une petite ville, une petite communauté. Ils n'ont pas énormément de Français qui passent par là, mais voilà, tout est fait pour que ça se passe bien. Il y a les cours. ESL qu'on dit, English and Second Language, c'est ça. Voilà, pour les qui sont pas natifs américains, dont c'est pas la langue maternelle, il y a en gros un renforcement en anglais, il y a une prise en charge qui est vraiment bien, et puis c'est l'école aux États-Unis, c'est quand même cool, quoi. C'est la pédagogie par le positif, c'est les journées à thème, c'est les journées pyjama, c'est fun en fait, c'est fun. Ma fille aînée a pas trop de souvenirs finalement de ses années en France, mais c'est vrai qu'elle s'est tout de suite super bien intégrée ici et voilà, tout était fait pour que ça se passe bien. Et ma deuxième, ça suit le même chemin. Donc c'est plutôt cool.
C'est génial. Ça fait plaisir à entendre en tout cas. Bon, et alors du coup, donc avec les deux grandes qui sont entrées à l'école, est-ce que toi aussi du coup tu t'es posé la question d'être en immersion totale ou partielle pour parler encore plus anglais ou de développer ton activité à côté?
Eh bien, alors au départ déjà, j'avais pas prévu d'avoir Nora, troisième enfant, et puis l'envie s'est fait, donc voilà, elle est arrivée il y a 4 mois. Mais ça m'a donné quand même un petit coup de boost. Je me dis que voilà, il va falloir que moi aussi je fasse quelque chose de cette expatriation qui est quand même partie pour rester, parce qu'à la base on est arrivé avec un visa assez précaire, hein, qui était un visa J1, donc voilà.
Ah ouais.
Qui était complètement pas voué pour qu'on reste aux États-Unis. Donc c'était une durée de 18 mois, donc on s'était dit on va tout faire pour que ça marche et qu'on reste, mais on n'avait pas la certitude déjà de pouvoir rester. Ouais. Et puis très vite l'entreprise a lancé les démarches pour la green card qu'on a obtenue il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, ça a été très vite et maintenant on a cette certitude que déjà ça nous plaît, qu'on se sent bien ici, qu'on a envie de que ça dure. Et pour le coup, voilà, moi il va falloir aussi que je puisse faire quelque chose ici. Alors j'ai aucune idée de quoi. Je sais pas si ça se fera avant ou après que Nora aille à l'école. Je sais pas si elle ira un peu en crèche. Enfin voilà, c'est vraiment le flou pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai envie aussi de ne pas être que la femme d'expat comme beaucoup, hein. Il y a beaucoup qui arrêtent leur carrière ou qui suivent ou qui mettent un peu tout de côté pour que tout se passe bien. Et je pense que c'est, dans notre cas en tout cas, c'était nécessaire. La réussite de mon mari, c'est aussi parce que moi, à côté, je suis à la maison et qu'il n'a pas à se soucier de tout ça et que nos filles, je gère le reste et il a, on va dire, la voie libre pour s'épanouir et puis réussir dans son domaine, et ça, c'est chouette. Mais moi aussi, un jour, je pense que je vais avoir envie de, je sais pas, d'entreprendre ou de travailler, mais en tout cas, je veux essayer de faire quelque chose, qui me plaise déjà avant tout. Donc c'est vrai que c'est en réflexion.
D'accord, donc on est au stade de l'exploration. Écoute,
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire?
Ouais, voilà. D'accord, mais en tout cas, il y a une envie. C'est super.
L'envie est là, ouais. Et puis, la green card fait que je peux déjà, donc c'est déjà bien.
Mais justement, ça m'amène à un point. Donc, la green card, vous l'avez depuis un an, c'est ça? Donc, vous avez été combien de temps sur le J1?
Eh bien, on est arrivé en mai 2016, notre J1 durait, je crois que c'était 18 mois, 20 mois, je sais plus, bon, à peu près 18 mois. Et puis, mais très très vite, les démarches de la green card ont été lancées. Donc on a été, on va dire, un an et demi dans la procédure green card.
Voilà. Ah, c'est long, hein.
Ouais, une procédure. Et pourtant, c'était une procédure quand même
accélérée.
On va dire un an et demi entre le tout début des démarches et le jour où on l'a reçu en main.
Voilà. D'accord. Et donc ils ont lancé en fait la procédure assez rapidement quand vous êtes arrivé, quoi.
Oui, vraiment dans les mois qui ont suivi, parce que ça devait être, je crois, en septembre ou octobre, ils commençaient à en parler et puis à lancer les démarches, parce que on s'est vite rendu compte en fait qu'on rentrait dans aucune autre catégorie de visa, donc c'était on n'avait pas le choix. S'ils voulaient nous garder et si on voulait nous rester, il fallait qu'on vise là-dessus, puisque le H1B, par exemple, qui est un visa qu'on aurait pu obtenir, il est passé maintenant sous tirage au sort. Et quand on l'a quand même fait, hein, mais on n'a pas été tiré au sort, donc on n'a pas pu prêter là. Donc voilà, on n'a pas eu de chance, mais finalement, on a quand même obtenu.
Ouais, non, vous avez eu un peu le Graal quand même, qui est très convoité.
Exactement. Donc c'était vraiment pas plus mal de ne pas rentrer dans ces finalement.
Et alors donc vous n'êtes pas rentré dans cette case-là. Vous avez eu la carte verte, qui est donc, pour ceux qui connaissent pas, la carte de résident permanent aux États-Unis. Alors résident permanent, ça m'amène forcément à me poser la question. Vous voyez rester aux US?
Alors,
vous avez acheté votre maison d'ailleurs, non?
Oui, on a acheté une maison il y a 2 ans presque maintenant. Oui, oui. Ouais, on se voit rester. On se voit pas forcément ici. Enfin, on n'a pas on n'est pas fermé à ça. De toute façon, si on nous avait dit il y a 4 ans tu vivras aux États-Unis, on n'aurait pas cru. Donc, on n'est plus trop non plus du genre à parler trop vite. Mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais effectivement, si là à l'heure actuelle tu me poses la question, je te dis. Je nous vois rester ici et c'est valable pour tous les deux. On se voit pas rentrer en France, on se voit pas forcément dans un autre pays, mais en tout cas on se voit aux États-Unis, ici ou ailleurs. On est très bien ici, mais ailleurs pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais, on se voit rester sur du long terme. Mais bon, ne jamais dire jamais, on sait pas.
Exactement. Et alors, un truc dont tu parles quand même assez souvent pendant l'hiver sur Instagram, c'est la neige et l'hiver qui est quand même très très rude. Donc au Wisconsin, on en parlait au début de l'épisode. Si vous bougez, ça t'intéresserait peut-être d'avoir un tout petit peu plus de soleil, j'imagine.
Un peu. Ah oui, parce que là, partir pour la même neige, non. Écoute, la vie ici est quand même cool, tu vois. Le Wisconsin, c'est pas connu, mais c'est quand même. C'est très calme, c'est hyper sympa pour tout, pour la vie de famille. Le coût de la vie est pas élevé. C'est vraiment, il y a beaucoup de points positifs pour le Wisconsin. Mais effectivement, la météo, c'est quand même très spécial. On a vraiment un hiver canadien. Hein,
qui dure 6 mois.
Voilà, qui dure 6 mois si tout va bien. Plus, on a quand même eu de la neige là à Halloween. Donc, c'est bon, quoi.
Waouh.
Ouais. Et on peut en avoir jusque juin, quoi, début juin.
Jusqu'à juin, sérieux?
Ah oui, l'année dernière, on a eu une petite, un petit coup, allez hop, pour te dire, c'est pas l'été.
Ne prends pas tes aides.
Voilà. Ne sors pas les tongs, ce n'est pas la peine. Mais, finalement, c'est chaud, quand même, C'est chaud. Mais après, l'été, il fait tellement beau, il fait tellement bon. On découvre un autre Wisconsin, c'est vraiment, on vit pas dans le même endroit. Entre l'été et l'hiver, on a deux saisons, en fait, c'est ça.
Ouais.
On n'a pas vraiment d'automne, mais franchement, l'été, c'est chouette, quoi. Et t'oublies vite en été, quand t'es sur ta terrasse en tongs sous 35 degrés, que dans quelques mois, tu auras de nouveau moins 20. Mais ouais.
C'est comme ça qu'ils te gardent, quoi, en fait. C'est qu'ils arrivent à te faire oublier qu'ils s'appellent grave l'hiver.
Tu oublies au mois de juillet, tu oublies.
Ouais. Le syndrome de Stockholm.
Non, c'est ça.
Ok, écoute, merci beaucoup, Fanny. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite là?
Que ça continue comme ça. Voilà. Moi, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Qu'on continue notre petite vie comme on l'amène maintenant. Beaucoup de découvertes, de voyages, qu'on continue comme ça et que ça roule pour tous les cinq.
Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Comme tu le sais, il y a une petite tradition qu'on a à la fin de chaque épisode, c'est qu'on aime bien justement. Donc là, tu nous as donné un tout petit aperçu du Wisconsin. Est-ce que tu pourrais nous donner trois trucs à faire, alors en hiver ou en été, comme tu le sens. Tu veux dire, tu vois pas les mêmes expériences.
Non, tu vivras pas les mêmes expériences.
Oui. Voilà. Qu'est-ce que, selon toi, il faudrait pas louper, qu'on trouvera pas forcément dans les guides touristiques si on débarque au Wisconsin?
Eh bien, en hiver, je te dirais de vivre l'expérience à fond, d'aller dans le nord du Wisconsin, de pêcher sur les lacs. De faire de la motoneige, de faire des bouées sur la neige, enfin voilà, de la glisse, vraiment de profiter. Après, effectivement, l'hiver, c'est quand même assez spécial. Sinon, le Wisconsin, il y a Wisconsin Dells, qui est une ville très peu connue, en fait, par les Européens et même les Américains, mais qui est quand même la capitale mondiale des water parks. Donc voilà, c'est une ville où tu as une concentration énorme de parcs d'attractions et surtout de parcs aquatiques, de jeux. Enfin, c'est la ville pour les enfants et les grands-enfants, on va dire, des bateaux. Enfin, il y a plein de choses à faire pour tout ce qui est amusement. Voilà, c'est assez typique.
Donc, plutôt en été, ça, j'imagine.
Oui, plutôt en été. Je te conseille, c'est mieux, effectivement, c'est mieux. Mais c'est vraiment sympa. Et puis, il y a quelque chose d'assez typique aussi au Wisconsin, c'est la récolte des cranberries, parce que c'est l'état où on produit le plus de cranberries aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pas...
Ah, je ne
fais pas de bêtises. Mais en tout cas, aux États-Unis. Et la récolte des cranberries, c'est assez typique. C'est avec, je ne sais pas si tu as déjà vu, ils immergent les champs avec de l'eau. Les cranberries remontent, ça fait des photos magnifiques. Il y a des routes spéciales ici où tu peux faire des trails spéciales à cette période-là. Donc ça, c'est en automne. C'est plus
excellent.
Dans le nord du Wisconsin, mais c'est super joli. Et puis, après, il y a des villes comme Milwaukee, qui est quand même connue. Qui est donc la plus grosse ville du Wisconsin avec plein de brasseries. On est un gros producteur de bière et de fromage. Dans le Wisconsin, c'est la bière et le fromage. Il y a plein de brasseries. C'est ça. Le musée Harley, pour les fans de Harley Davidson, qui est originaire de Milwaukee. Le Summer Fest, qui est un des plus grands festivals mondiaux de musique qui se déroule en été à Milwaukee. Puis, une dernière chose, Madison, qui est une petite ville bien sympa, qui est la capitale du Wisconsin, entourée des quatre lacs. C'est une ville qui est très jolie, magnifique, avec un super beau Capitole qui ressemble un peu à celui de Washington. Marquette en été, plein de petites choses à faire finalement. Et ça mérite d'être découvert un peu plus.
Écoute, franchement, je sais pas, mais tu devrais peut-être signer un partenariat d'influenceur avec le club de tourisme du Wisconsin là, parce que
tu vois, j'ai peut-être donné envie là.
Y a pas mal. D'ailleurs, en parlant d'influenceur, j'ai beaucoup ri puisque Fanny est aussi influenceur en raclette, en fromage. Nous, elle parle très souvent.
Ah ouais.
On parlait communauté justement d'expat un petit peu plus tôt, et c'est vrai qu'on se passe souvent des tuyaux quand on trouve ou trouver du fromage à raclette. C'est un peu un
je m'auto-proclame influenceur raclette des États-Unis. Je pense que grâce à moi, Aldi et Trader Joe fait un gros coup cette année encore. Mais ouais, effectivement, il faut trouver les bons coins et les bonnes offres. Mais figure-toi qu'on produit de la raclette aussi dans le Wisconsin. Donc tu vois, j'étais faite pour.
Mais c'est ça.
À une heure de chez moi, il y a, tu peux aller acheter carrément en meule. On achète une demi-meule de raclette avec des amis français ici. Ah. Et on se parle, tu vois. Donc, nous, on est des privilégiés aux États-Unis.
Ah, vous êtes bien lotis, hein, quand même. En fait, vous avez tout ce qu'il faut dans le Wisconsin.
Oui, mais on a froid.
Bon, on peut pas tout avoir.
Voilà, effectivement.
Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie de venir faire un tour. Si donc nos auditeurs, il y en a qui ne te connaissent pas, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Eh bien, sur Instagram, sur Instagram, sous le pseudo Fanny French Family.
Très bien, très bien. Écoute, Fanny, c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir sur cet épisode. Un grand merci.
Eh bien, plaisir partagé.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des reviews que nous avons obtenues sur Apple Podcast récemment. Un grand merci à Claire du Canada qui nous dit « Génial, tellement une bonne idée ce podcast. Expatriée au Canada depuis bientôt 4 ans, j'adore découvrir d'autres histoires d'expatriation. Merci. » Bah écoute Claire, merci à toi pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis sur iTunes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.